C'était la version D de ces deux premières pièces des danses des compagnons de David. Négar Airy, c'est un autre voyage qu'on entend là.
Ah oui, c'est autre chose. Et c'est marrant d'entendre la version D juste après la C qui, elle, était si épurée. Là, on a au contraire une espèce de résonance. Alors, je ne sais pas si c'est la prise de son, la pédale ou pas. Mais bon, c'est vrai que la résonance invite au rêve. Il y a quelque chose d'un peu... Un peu rêveur dans ces sons qui restent, quoi, dans ces résonances. Mais là, c'est vraiment trop, je trouve. Jonas, pour la première version, parlait de cassure dans l'unité.
Dans les deux pièces ?
Oui, dans les deux pièces. En fait, y a vraiment, on a le sentiment que le pianiste veut nous prendre par la main et nous montrer le rêve qu'il est en train de faire avec Schumann. Il y a une cassure dans l'unité, il y a une cassure dans le rythme. Il n'y a pas assez de mystère, en fait. À force de trop vouloir montrer les choses, elles deviennent presque évidentes, quoi.
Oui, on souligne trop, ouais. C'est votre impression ?
J'ai trouvé, oui.
Ouais. On veut montrer l'âme de Schumann, cette âme insaisissable, fantasque. Vous avez été sensible à cette vision, Jonas Vito ?
Pas trop, non. Je trouve que ça tourne un petit peu à l'effet. Il y a en effet beaucoup de fantaisie. Il y a des passages isolément, des idées qui peuvent être très intéressantes, très originales. Mais on a un discours un petit peu haché à force d'idées originales toutes les trois secondes. Et ça contribue aussi à émietter un petit peu le discours et à lui faire perdre son unité. Dans la première pièce, il y a des petites choses isolées que j'ai bien aimées, comme par exemple Himmel Lebendiger, qui était très staccato. Donc c'est de plus en plus vivant, c'est le passage indiqué par Schumann, de plus en plus vivant, que j'ai trouvé très original, très intéressant dans sa conception, avec très peu de pédales, très staccato. Voilà, il y avait des idées intéressantes, mais la façon dont il fait aussi les accents dans la partie centrale m'a paru assez monolithique, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre le contexte de l'accent selon qu'il s'agit d'une appoggiature ou d'une résolution. Un accent ne se joue pas de la même façon. Et chez lui, il y avait quelque chose de très identique sur tous les accents. La partie centrale, enfin la deuxième pièce, pardon, je voulais dire, j'ai pas été très sensible non plus. Je trouvais qu'il y avait trop d'effets, trop... Là encore, notamment les transitions qui m'aidaient à la fois à la reprise et à la deuxième partie de la deuxième pièce me semblent très extérieures au propos général, juste par désir de l'effet et cette recherche de l'originalité à tout prix. Bref, un manque de sincérité,
ça vous plaît pas.
Un discours haché.
Ouais. Mais on s'ennuie pas pourtant, il y a
non,
quelque chose
non,
qui, cap, qui captive,
captivée,
non
alors, dans cette... Au début, je trouvais tellement caricatural.
Ouais.
C'est vrai que je crois qu'on était tous surpris,
manière... Je vois le regard de chacun dans le studio.
D'un coup, beaucoup de pédales au début, et puis rien du tout.
Ouais.
Ça avait l'air un peu chaotique et très épisodique. Du coup, c'est ça, la première danse, malheureusement, souffre... par ce côté épisodique, morcelé, Jonas avait souligné.
Un peu improvisé comme ça, comme jeté.
Oui, je crois, assez spontané au final, très personnel évidemment. Et de temps en temps, un peu maladroit. c'est rigolo.
C'est-à-dire ?
Parce qu'on surjoue un peu trop les choses et donc il y a une sorte de lourd. Bon. Alors, c'est une maladroiture très, très bien menée. Il ne faut pas oublier que Schumann aussi, dans la troisième pièce, il a indiqué maladroit. Alors après, dans la deuxième édition, il enlève et il dit avec humour. Donc, il y a cette recherche aussi une caractérisation qui n'est pas que la mélancolie ou que la rêverie, que la vitalité. Des choses peut-être qui va taquiner un peu plus, qui va perturber aussi un peu plus. Je crois que c'est voulu. Et la deuxième pièce, pour moi, était magnifique. Sauf le gros rubato, qui était trop exagéré. Mais je trouvais la deuxième pièce particulièrement réussie pour le côté, pour la maîtrise des timbres et des sonorités. Il y avait des sonorités assez magiques là-dedans, qui est difficile parce que tout se passe un peu dans les médiums du piano. Et là, je trouve qu'il y avait une luminosité très spécifique, une couleur très spécifique à chaque voix. Après, ce n'est pas du tout ma version préférée, parce que pour moi, c'est peut-être un peu trop... mais c'est assez captivant.
Ouais, elle est très originale, elle a un point de vue en tout cas.
Oui, absolument.
Alors, j'ai dit en début d'émission tout à l'heure, donc ces pièces ont été composées en 1837, qu'elles sont composées 3 ans après la création donc, de cette nouvelle revue musicale qui embarque tous ses compagnons de David, personnages inventés pour la plupart. J'ai quelques phrases de Schumann là-dessus, qui, avec ses compagnons de David, était chargé d'abattre mortellement les philistins de la musique. « Jeunes gens, vous avez un chemin long et difficile à parcourir. Une lueur étrange s'élève dans le ciel, je ne sais si c'est l'aube ou le couchant, créé pour la lumière. Et, écrivait Schumann, il faut des œuvres, démasquant l'envie de démasquer les œuvres mensongères, il faut des œuvres pour chaque palier de culture, seul devait être exclu de l'art l'hypocrisie, la laideur qui s'enveloppe de voiles séduisants, ces polygraphes dont la production est une affaire d'argent, ces galvaudeurs, ces simulateurs pauvres et appauvris qui habillent leur indigence d'oripeaux bariolés, cela nous devons les combattre de toutes nos forces. Voilà l'un des projets esthétiques de Schumann et ses compagnons avec des compositeurs bien précis en tête. Hein. Il n'aimait pas trop les compositeurs italiens, les Canaris, comme les appelait Rossini notamment, et puis Meyerbeer y passait.
Je pense que c'est aussi tout le monde musical de son époque, qu'il n'aimait pas. Enfin, il était devenu aussi polémiste en tant qu'écrivain, donc il avait aussi à s'affirmer en tant que critique musicale et à montrer les goûts esthétiques qui lui étaient chers.
Ouais. Et alors dans ce parti pris, moi je pensais, quand j'écoute cette version, on parlait du côté taquin, ces parti pris comme ça, cette envie de piquer un petit peu,
voilà.
Un plus impertinent, plus dans l'aspect peut-être esthétique, défense esthétique que journal intime peut-être de Schumann, je ne sais pas.
Oui.
En tout cas, elle vous a fait réagir, cette version D. Voici la cinquième, la E. La version E de ces David Bündler-Tänze de Schumann, première et deuxième pièce. Là, Jonas Vitto, c'est un peu la fièvre qui l'emporte dans ce inni intime intérieur de la deuxième pièce.
En effet, on est beaucoup moins dans le rêve que dans l'inquiétude, presque dans l'angoisse. Enfin, il y a quelque chose, déjà un tempo qui est très nettement au-dessus, et puis une approche en effet beaucoup moins intériorisée, comme une urgence, quelque chose qui doit sortir. Mais
ça marche,
c'est très intéressant, moi ça me plaît beaucoup, j'aime même cette version à un tempo très nettement au-dessus me convainc tout à fait. Et la première pièce je l'aime aussi beaucoup, l'énergie de l'introduction par exemple donne vraiment un geste, quelque chose de très un Cyrano qui rentre, voilà.
Cyrano et Schumann, oui, c'est pas forcément une association immédiate, mais pourquoi pas.
Ouais. En tout cas, la fougue
mais
de Panache.
Oui, bien sûr, mais oui, tout à fait.
C'est les deux mots qui définissent
Florestan.
Voilà,
c'est vrai.
À la fois
c'est
Cyrano et Florestan.
C'est vrai.
Voilà, non, il y a beaucoup de fantaisie dans cette version, mais je trouve qu'elle ne se fait pas au détriment de l'unité. Donc on a un discours qui réussit à concilier les deux, et ça me plaît énormément. Non, vraiment, j'aimais aussi la subtilité dans le rubato, c'est-à-dire que c'est toujours modulant, il n'y a jamais de systématisme, c'est toujours très inventif, imaginatif, ça me plaît beaucoup. Et tout est très caractérisé.
Bon, c'est très caractérisé. Qu'est-ce que vous diriez d'autre, Mélissa ? Vous êtes sensible ou pas à cette version ?
Un peu moins que Jonas, oui. Mais après, je crois que c'est très personnel, au final, la musique de Schumann. On va le phraser comme on l'entend. Donc là, ce qui est très clair, c'est ce que l'interprète veut dégager, c'est cette énergie, cette impétuosité qu'on associe aussi beaucoup avec Schumann, de ne pas être bridé du tout. Et je crois, pour moi, c'est ce qui m'a déçu un petit peu, c'est ce manque de pudeur, d'intériorité qui existe quand même dans le monde de Schumann, et la manière peut-être de souligner la densité d'harmonie avec beaucoup de pédales, avec un toucher un peu plus lithien. J'entends vraiment la virtuosité, cette recherche de virtuosité, et qui au final pour moi enlève l'énigme qui est dans la musique de Schumann. Il nous invite à découvrir à chaque fois les tons secrets dans ses œuvres, les lettres dansantes. Et là, il va manquer le mystère pour moi. Parce que tout est dit de manière très forte, de manière très extravertie. Et j'étais étonnée aussi par le tempo de Inish, très très vite d'ailleurs. La volonté de ne pas faire les reprises, qui est peut-être une question d'édition.
C'était aussi le cas de la...
Oui, et dans la première danse notamment. C'était
oui,
sur...
et passé tout à l'heure, je crois. De ne pas faire les reprises.
Oui, ouais. Oui. Mais ouais. Là, on a l'impression que les épisodes passent très très vite et il n'y a pas cette intériorité, cette manière de poser, interrogation intérieure. Voilà.
Ouais. Et il y avait davantage d'énigmes dans la précédente, dans la D, que dans celle-ci.
Ah oui, je préfère largement la D.
À celle-ci.
Même si les deux sont assez déroutants au final.
Ouais.
Oui.
Laquelle préférez-vous, vous, les gars ?
Moi, j'aime beaucoup cette version. Elle est assez étonnante. Alors, c'est surtout la deuxième pièce de cette version qui me... J'étais partie, disons, pour ne pas l'aimer, parce qu'effectivement, je trouvais qu'elle était trop rapide et qu'elle manquait d'intimité. Mais finalement, la douleur de cette pièce, elle n'est pas décrite par le son, par l'intimité du son, mais par le discours lui-même, en fait. Le pianiste joue avec une telle simplicité que les notes elles-mêmes disent quelque chose de sa douleur. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de douloureux là-dedans. Et ça détonne beaucoup des autres versions. Je ne sais pas comment le décrire.
Dans ce geste, plus que dans la caractérisation
miniature. Absolument. Mm-hmm. Voilà, il n'y a pas de soin, disons, donné. On a le sentiment qu'il n'y a pas tant de soin donné au son. Ce n'est pas le son qui crée cette douleur-là. Je ne sais pas comment dire. C'est la simplicité par laquelle le pianiste délivre, en fait, ses notes.
Vous aimez le toucher de ce pianiste ?
Oui. Je trouve ça très intéressant, très, très personnel, très particulier, pas du tout instinctif, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui marche vraiment.
Oui. Et ça vous parle davantage, vous, que la précédente ?
Ah oui, la précédente, je la trouvais trop grossière, en fait.
Ouais, bon, d'accord.
Ici, il n'y a pas de grossièreté.
Bien.
Ici, c'est simplement dit.
Parfait. La dernière, la version F.
Thank you.
La version F, la dernière de la sélection de ces danses des compagnons de David, de Schumann. Mélissa Kong, où est-ce que se situe cette version F par rapport à toutes celles qu'on a entendues?
Elle est plutôt idéale pour moi.
Ah oui.
Oui. Surtout la première danse. Je trouve que là, on trouve vraiment l'univers de Schumann sans que ça soit exagéré, sans qu'on entende trop l'interprète. C'est aussi ça, parce qu'au final, quand on joue Schumann, je crois qu'il faut avoir un avis extrêmement personnel, parce que Schumann nous laisse des indices, mais finalement, la façon qu'on va colorer, la façon qu'on va mettre en place des sentiments, c'est assez personnel. Et là, je trouve qu'il y a un très très bel équilibre entre toutes les nuances possibles, entre tous les sentiments possibles, entre la vitalité, la rêverie, un peu d'impertinence aussi. Et pour moi, la première danse, elle est très vivante, très riche justement dans ce discours-là. J'aime beaucoup les jeux de résonance aussi, qu'on entend dès le départ, le si qui est tenu et qui va devenir cette motif, qui l'un des motifs qui peuple cette œuvre-là. Alors, Inish, pour moi, manque peut-être un peu de mystère, un tout petit peu. C'est la manière dont on interprète. On cherche beaucoup de lyrisme, des longues lignes et aussi une grande simplicité. Peut-être il manque un peu de mystère pour moi, mais c'est peut-être le seul bémol que je peux trouver dans cette version-là.
Oui. Negaraïri.
Moi, je suis un peu moins convaincue par cette version. Je commence par la deuxième partie. En effet, je suis d'accord avec Mélissa, je trouve qu'elle manque de mystère. Moi, elle m'a pas tellement touchée, en fait. Il n'y a pas l'intimité, il y a peut-être une simplicité dans le discours, mais ça ne fait pas l'effet que m'a fait la version précédente, qui était tout aussi simple, je trouve, dans le discours, dans la deuxième pièce. La première pièce, je trouve qu'elle... On parlait de panache tout à l'heure, je trouve qu'elle ne commence pas avec le panache de...
Ah oui.
De la précédente pièce. Alors ensuite, ça se rattrape parce que on entend en effet une danse et une espièglerie, mais de manière générale, j'ai pas été si touchée que ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, dans la première pièce, Jonas Vito?
Globalement, la pièce m'a plu, la première pièce, un peu moins la deuxième, donc je ferai une sorte de synthèse un peu entre vous deux. Dans la première pièce, j'aimais vraiment ce côté volubile, cette façon de passer d'un caractère à l'autre d'une manière très rapide, comme un enfant, quelque chose de très... Voilà, cette capacité qui est très schumannienne de passer d'un état à l'autre d'une manière très rapide. Et puis c'est élégant, la façon dont, après l'introduction, le thème est énoncé, c'est extrêmement élégant, j'aimais beaucoup le style. Ce qui m'a un petit peu moins plu dans la première pièce, c'est le passage central qui, je trouve, était un petit peu trop... les accents un peu trop marqués, et je trouvais que ça manquait un peu de ligne dans la partie centrale. Parce que s'il y a ces oppositions permanentes, ce côté un petit peu très changeant dans la première partie de l'œuvre, il faut trouver, je pense, dans cette partie centrale un peu plus de continuité. La deuxième pièce m'a aussi un petit peu moins plu. En effet, je ne retrouve pas non plus l'intériorité qu'on n'avait pas non plus dans la version précédente, mais d'une autre façon, si on peut dire. C'est-à-dire que là, c'est parce que le son reste tout le temps clair, on n'a aucune zone d'ombre, donc il n'y a pas d'intériorité possible. C'est toujours, tout est très clair, tout est très, rien n'est caché, voilà. donc, c'est trop sain, presque. Ouais.
Ce qui peut réussir à la première danse réussit moins dans cette inish.
C'est bon, ça. Ouais. Après, la façon dont il a refait le thème, j'étais moins convaincu par son tout début, mais à la fin, quand il a rejoué, le thème, je trouvais que c'était plus convaincant.
Bon. Voilà pour les 6 versions de cet après-midi. Vous avez préféré certaines à d'autres. Il va s'agir d'en supprimer 2. Réflexion. Mélissa Kong, vous avez fait un choix.
Oui, je crois, pour moi, c'est assez clair. C'est la A et la E.
La A et la E.
Je sais, ça ne va pas plaire à mes camarades.
Non. Surtout Négar, la E, pas l'enlever. Négar, vous, ce serait quoi?
Moi, j'ai du mal à... La D.
Oui. Je sens que ça va être très dur, au final, de choisir.
Et ensuite, C.
La
C-D.
D et la C.
C-D, ouais.
Tout repose sur vos épaules, Jonas Vito, attention.
Moi, je retirerais la A et la D.
La A et la D. Ça fait 2 versions contre la version A. 2 voix, pardon, contre la version A. 2 voix contre la version D. C'est bien ça?
Oui.
Finalement, c'est facile.
Oui.
Alors, la version A, c'est Mitsuko Uchida. En 2010, pour D'accord. Deka. Et la version D, sur laquelle on a beaucoup parlé, hein, elle vous a divisé, c'est la deuxième version de Jean-Marc Louisada.
Ah, d'accord.
Pour le label RCA, enregistré en 2018. Voilà, Mitsuko Ishida et Jean-Marc Louisada qui nous quittent à ce stade de l'écoute. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
France Musique, la tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau.
Dans la tribune des critiques de disques aujourd'hui sur France Musique, ce sont les Davidsbündler Tänze de Robert Schumann qui sont au programme. Pièce, 18 pièces pour piano, opus 6 composé en 1837. Nous sommes en compagnie de Mélissa Kong, Jonas Vito, Negar Airi. Je n'ai pas encore signalé que bientôt sur France Musique, Jonas Vito, vous allez être à l'honneur puisque la semaine du 16 juin, nous entendrons les grands entretiens menés par Judith Chen. Voilà. Et vous avez peut-être des concerts aussi qu'on peut annoncer ces jours-ci.
Je jouerai à Laval, par exemple, le 3 juillet. Le 28, je jouerai à Collioure.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Schubert, Schumann.
Non, ce sera Dvorak et Sévrac, Déodat Sévrac.
Déodat Sévrac, oui. Ouais. Vous aimez jouer Schumann, vous-même?
Oui, c'est pas un compositeur que je joue extrêmement fréquemment, mais j'aime énormément sa musique. J'aime évidemment infiniment Brahms. Donc, Schumann fait partie de l'ADN de Brahms. Donc, j'aimerais en jouer plus de Schumann.
Il vous est moins indispensable que Schubert ou Brahms?
Peut-être.
Ouais.
Oui.
Ouais. Alors, je rappelle qu'on a supprimé deux versions cet après-midi, qu'il en reste quatre. Nous avons supprimé les versions de Mitsuko Ishida et de Jean-Marc Louisada. Les pochettes s'affichent sur le site de France Musique et l'application Radio France, où vous pouvez voter et tenter de gagner un coffret de deux disques, Schumann, interprété par Pierre Fouchenneret, Victor-Julien Ferrière, Lise Berthaud, Théo Fouchenneret. C'est un disque paru chez B-Records, c'est le disque France Musique de la semaine. On va passer maintenant aux pièces numéro 14 et 15, qui s'appellent respectivement Zart und Singend, doux et chantant, une sorte de sérénade très, très délicate, pleine de passion, et puis juste après, Frisch, alerte, autre couleur, autre aspect de cette dualité de Robert Schumann dont nous avons parlé et dont nous allons à nouveau parler donc dans ces deux pièces des Davidsbündler Tänze. On va enchaîner les versions, on va entendre B et C, et puis E et F. On fera un micro une fois qu'on aura entendu la confrontation entre les deux premières. Voici tout de suite la version B.
Thank you.
Même chose dans la C. Les versions B et C à l'instant des 14e et 15e pièces de ces 18 pièces pour piano, donc des David Bündler Tänze de Robert Schumann. Jolas Vito, laquelle des deux explore le mieux le monde, l'univers, l'âme de Schumann pour vous?
Il y avait des très belles choses dans les deux. Ouais. Pour ma part, j'ai préféré encore la première version, la version B.
Ouais.
Moi, je suis fasciné par la sonorité de ce ou cette pianiste. Le début, par exemple, je trouve qu'il y a cette sensation d'émerveillement, cette façon de poser une question, cette luminosité dans le son qui me touche beaucoup. J'aimais beaucoup aussi le dosage entre les deux voix de la main droite, puisqu'il y a du contrepoint sans cesse entre les mains, et même à l'intérieur même d'une main, la main droite en l'occurrence. Et je trouvais que c'était extrêmement bien dosé entre les différentes voix. Voilà, j'ai trouvé ça très touchant. La coda aussi, qui est ici typiquement schumannienne. Oui. Les codas, comme chez Chopin. Chopin et Schumann font des codas particulièrement touchantes, où ils mettent vraiment toute leur âme. Et j'ai très, très touché par cette coda de la pièce numéro 14.
Oui, dans la version B.
Dans la version B. Oui. Alors, pour la 15e pièce, j'ai été convaincu par aucune des introductions Florestan. Pim, pam, pam, pa, 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 pa. Pas tout à fait non plus dans la version B, même si je l'ai préférée légèrement, parce que je trouvais que les croches étaient un peu longues, un tout petit peu, manquaient un petit peu d'énergie, et ne contribuaient pas suffisamment à mettre en valeur le contraste avec la partie centrale, qui, elle, est plutôt usébius, puisque là, on est dans cette seconde pièce, là encore, dans une pièce qui rassemble Florestan et Eusebius. Ouais.
Le retour de Florestan dans la coda, là, cette
voilà,
fois.
Voilà, c'est ça. Donc, l'introduction et la coda qui font voir la personnalité de Florestan. Donc, la partie centrale m'a énormément plu. On y retrouve encore cette naïveté, cet émerveillement qui, moi, me touche beaucoup. Et la fin du Eusebius, avant cette réexposition du Florestan dont vous parliez, j'ai trouvé désarmante de simplicité, vraiment très très touchante. Dans la version C, la première pièce, c'est-à-dire la 14e, enfin les auditeurs
oui, la 14e pièce. Zart und Singen. Hein,
ouais, Singend.
Zart und Singen.
Singend.
Singend.
Voilà, ça veut dire chantant.
Chantant, voilà, 12 et chantant.
Voilà,
oui,
c'est ça.
Et pas Singend.
Donc, moi j'ai bien aimé cette version aussi, je trouve qu'elle est moins fascinante sur le plan sonore, mais il y a une grande simplicité. Même si le son est peut-être un peu moins rêveur, il y a moins de souplesse aussi au niveau du rubato, mais il y a quelque chose de très direct, très intéressant. La partie centrale, par contre, de cette pièce m'a un peu moins plu, dans le sens où les diminuendo indiqués par Schumann sont un peu remplacés par des crescendo. Quand on a ti-dam, ti-dam, je trouvais qu'il faisait un peu ti-dam, ti-dam, avec des accents, des faux accents pour moi, sur les noix. Ça m'a un petit peu moins plu. Mais globalement, j'aimais bien cette approche très dépouillée. Ça m'a intéressé. Alors, la pièce suivante, j'étais donc pas non plus convaincu par cette introduction friche. Je trouve qu'elle est un peu rigide et un peu lente aussi, peut-être. Les croches sont beaucoup plus staccato que dans la version précédente, mais peut-être qu'on manque encore d'humour. On en trouvera dans d'autres versions, certainement.
Oui, oui.
Et la partie centrale est plus vaillante. Il y a plus de sang de Florestan dans Eusebius. Mais c'est une version intéressante aussi. Voilà, globalement, ça m'a bien plu aussi, même si j'ai une préférence pour la version B.
Vous aviez été sensible aux deux versions tout à l'heure, oui. Mélissa Conk, de cette B et C.
Oui.
Et ici.
Et là, je continue à beaucoup apprécier les deux. La C, je trouve justement sa qualité qui va peut-être aussi jouer contre elle, c'est cette pudeur qui est permanente, en fait, cette recherche de sobriété, de retenue aussi. Et donc, pianistiquement, on entend quelque chose aussi beaucoup plus pudique. On n'a pas dans la recherche de la fantaisie, dans les couleurs peut-être un peu trop larges. La palette, elle est peut-être un peu plus restreinte que dans la B. Mais ce que j'admire beaucoup, c'est ce chant qui est toujours présent, qui est toujours lumineux, même si la prise de son, malheureusement, ajoute aussi une dureté. Je crois que c'est peut-être pas une dureté, mais c'est cette droiture que cherche ce pianiste, de dire des choses avec beaucoup de simplicité. Je suis d'accord avec Jonas, il y a peut-être cette volonté de phraser dans les longues phrases de 8, et donc il va manquer cette évocation de soupir dans Schumann, où à chaque fois on a ces décrescendo qui va imiter ces soupirs-là. Donc on a cette recherche de grandes lignes, peut-être beaucoup, un peu plus classique, on va dire. Mais c'est quand même extrêmement touchant. Je trouve que c'est très, très senti dans cette évocation de tendresse. En effet, le début de la 15e danse, avec cette introduction qui rappelle une écriture très massive que Schumann va aussi mettre dans sa fantaisie, dans ce deuxième mouvement redoutable. Je crois pianistiquement, ça ne devrait pas être une mince affaire. Donc, en effet, on a soit le choix de faire ça de manière un peu dure, un peu agressive, qui était le choix de la C, un peu imposant. Et la D, mettait beaucoup plus de pédales. Donc,
la B.
Et là, je passe à la B, oui, c'est ça. Oui. La B qui mettait plus de pédales et qui est peut-être pianissimo un peu moins assurée dans ce début de la 15e danse. Mais là, je passe à la B.
Ouais.
Je trouve que la B, justement, a une palette tellement nuancée, tellement subtile, qu'elle est vraiment mise en valeur par ces deux extraits. Hein. On va entendre comment il va gérer aussi la suite.
Ouais.
Mais je crois que c'est vraiment c'est captivant, cette manière d'articuler les phrases, de savourer aussi ce côté doux, la douceur, presque on peut la goûter tellement
oui.
elle est...
La oui, fragilité aussi.
La fragilité.
Oui, et on a un peu, dans le début de la 14, on a un peu l'impression d'entendre le début de scène d'enfant. Non,
oui, ah, oui, il y a beaucoup c'est de grandeur, qui... la ouais. naïveté, l'innocence, ouais. c'est tellement bien saisi. Ouais. Et je crois que c'est vraiment les qualités de ce pianiste-là, de pouvoir évoquer des sentiments avec une palette très douce, très subtile, très nuancée, très lumineux aussi, comme soulignait Jonas. Et dans la 15e danse, on a le lead qui se déploie, c'est Wittmund de Schumann, totalement. Donc j'étais très très sensible aussi à la B.
Oui, vous y aviez été plutôt sensible, vous à la B tout à l'heure, Negar Airi. Quels sont les cloches ici ?
Et celle-là, c'est l'inverse.
Ah oui ?
Ouais, je suis un peu moins d'accord avec ce qu'on dit Jonas et Mélissa.
Sur la B ?
Ouais, en fait, j'ai eu une vraie préférence pour la C, et peut-être même un petit coup de cœur là pour cette version-là. Donc, je commence par la C.
Oui.
J'ai entendu ici, en tout cas, dans la pièce 14, une délicatesse, une fragilité. Et j'ai trouvé qu'il y avait une véritable unité. C'est-à-dire que, voilà, j'entendais la mélodie sur plusieurs fragments, en fait. Ce que je n'ai pas entendu dans la version B. La version B, pour le coup, je l'ai trouvée là, beaucoup plus fragmentée, en fait. Il y avait toutes les qualités que Jonas et Mélissa ont indiquées, et pourtant, là où le pianiste m'a perdue, dans la version B. Donc, pour revenir à la version C, cette fragilité-là, qui peut-être est une critique, là, ici, je l'ai trouvé assez remarquable et à son avantage. Et puis, j'ai adoré la pièce 15, jouée par ce pianiste numéro C. Alors, effectivement, l'entrée en matière est très verticale, c'est vraiment note à note, mais bon, ça a un parti pris. Et puis ensuite, j'ai trouvé que c'était magnifique, c'était bourré d'élan. Enfin, et cette même pièce, dans la version B, je l'ai trouvée un tout petit peu plus cacophonique.
Ouais. Bon.
Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait d'accord.
Non, c'est très bien. On va se livrer au même exercice en comparant les versions E et F de ces 14e et 15e pièces. Voici la E.
Thank you.
Et maintenant, la version F. Voilà les 14 et 15e pièces de ces David Bündler-Tänze de Schumann dans les versions E et F à l'instant. Version F qui était un peu l'idéal pour vous tout à l'heure, Mélissa Kong,
oui.
Je crois.
Oui, oui, tout à
Avec
fait.
Avec des petites réserves, mais...
Quelques petites réserves. Ouais. C'est vrai que la main gauche, elle est assez présente, je trouve. Donc, il va manquer la transparence qu'on a tellement appréciée de la version B, ouais. Cette luminosité. Alors là, on cherche peut-être autre chose et on l'entend. C'est vraiment mis en valeur, je trouve, dans la 15e danse, où ce passage florestan qui est difficile à bien assumer, là, je trouve, est peut-être le mieux mené parmi toutes les versions. On a vraiment ce dialogue entre Florestan et Eusebius, et puis Florestan qui revient réveiller Eusebius de sa rêverie à la fin. Les transitions dans ce sens-là sont très très bien menées. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans la version F, c'est cette souplesse agogique qu'on a au sein d'une pulsation extrêmement stable. On entend beaucoup dans la quatorzième pièce,
ouais.
Le chant qui flotte presque en apesanteur. Et cette malléabilité de temps, en fait, le temps se suspend, alors sans qu'on ait trop dans le rubato, c'est assez admirable. La version E cherche un sens de gravité et donc plus ou moins à l'opposé de la F. On cherche la densité, la bravoure aussi, ce regard plus extraverti, qui est bien mené, on veut dire. Le chant est très, très souligné. Mais pour moi, il manque encore cette intériorité. Pour moi, c'est un peu trop extraverti. Tout est dit. Il manque de mystère encore pour moi. Et il manque cette recherche aussi d'intériorité. Je trouve peut-être le refus de cet interprète d'aller dans cette recherche, pour moi, ça me déçoit un petit peu.
Oui, mais alors, le refus d'aller vers ça. Et en plus, la bravoure, paradoxalement, il se passe de la coda.
Exactement,
qu'on peut ou ne pas faire. Hein.
Exactement, qui est marqué à Libiton dans certaines éditions et qui va expliquer aussi la reprise qui n'ont pas été faites dans la première danse.
Oui, tout à fait, qu'on avait remarqué déjà tout à l'heure. Megaraïri, vous c'est l'inverse. Vous aviez été plutôt emporté tout à l'heure dans les deux premières pièces par la version E moins la F.
Mais c'est très étonnant parce que c'est la première fois, je crois, qu'il y a une telle différence dans ce que je ressens entre par un même interprète dans les différents extraits qu'il joue. Là, étonnamment, la F que j'aimais moins tout à l'heure m'a beaucoup plus plu ici. Donc c'est...
Un retournement de situation assez... comme tout à l'heure.
À chaque fois, il y a des retournements de situation. Donc tous ces interprètes-là me perdent.
Ouais.
Mais ça, c'est Schumann.
C'est Schumann, et voilà.
C'est Schumann. Non, je trouve que c'est deux très belles versions. Effectivement, j'ai préféré la F ici à la E. Je trouve que la F a cette vertu de prendre le temps de raconter. C'est pas forcément une question de tempo. Alors évidemment, le fait de prendre un peu plus lentement joue, mais voilà, c'est dans sa manière de dire les choses. Dans les deux versions, j'ai trouvé qu'il y avait une continuité dans la mélodie. C'est-à-dire qu'on sait d'où ça part et où ça arrive. Il y a vraiment une espèce de phrase, comme quand on parle, en fait. Ça, c'était réussi. J'ai beaucoup aimé dans la version F la 15e pièce. Le démarrage, c'est ici aussi vertical, mais pas trop sec, c'est rebondi. On sent que les accords, il les retient dans sa manière d'attaquer les notes. Et je trouve ça enjoué, en fait. Mm-hmm. On ne retrouve pas le caractère un peu martelé de la version, je crois, B de tout à l'heure. Ou C de tout à l'heure,
ouais.
Absolument.
Ouais.
Et voilà. Et la suite, pareil. On était dans cette rêverie avec cette houle en filigrane, comme des vagues. C'était très, 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 très plaisant. Et beau.
À vous, Jonas Vito.
Alors, de mon côté, j'avais des réserves dans les deux versions. Aucune ne m'a complètement convaincu.
Vous êtes resté sur la B de tout à l'heure, peut-être.
Oui. Non, mais il y avait des choses excellentes dans les deux versions aussi. Hein, mais alors, commençons par la E. Donc dans cette 14e pièce, évidemment, le tempo était très nettement plus allant. Donc, ça change un petit peu le caractère. On est dans quelque chose d'un petit peu moins intime. Mais la façon dont le début a été joué m'avait beaucoup convaincu dans cette nouvelle version. Ce qui m'a refroidi un petit peu, si je puis dire, c'est que les crescendo me semblent manquer de subtilité. Pour moi, ces petits crescendo indiqués dans la partition, c'est des mouvements très subtils de l'âme. Ça doit être infime, ça doit être très, très restreint. Et je trouvais qu'il allait trop loin, ou elle, dans la progression de ces nuances, ça devenait un petit peu extérieur. Et puis... Il y a des choses très subtiles aussi de contrepoint entre les deux voix. On a parlé des deux voix de la main droite, où j'en avais parlé tout à l'heure. Il y a des rencontres qui se font entre les deux voix, dans la mesure 12, pour ceux qui ont la partition, par exemple. On a quelque chose qui va vraiment rentrer dans le même registre, se confondre. Et je trouvais que là, quand les voix s'entrechoquent, elles se cognent, on n'a pas de distinction claire des deux voix, et on manquait de clarté contrapuntique. La coda était très bien réalisée, elle m'a beaucoup plu.
Ça, c'est
alors,
sur la, ça, c'est
là,
sur
je suis sur la E.
Sur la E, ouais.
Voilà. Pour ce qui est de la 15e pièce, moi, même si l'interprète ne l'a joué qu'une fois, j'aimais beaucoup le côté florestan, le frish du début qui a été choisi de dont l'interprète
Alerte.
A choisi de ne
ouais.
pas le refaire
ouais.
en coda. Mais il y avait quelque chose à la fois avec une énergie phénoménale, mais et plus de liberté, plus d'humour aussi, dans ce qui me manquait dans les deux versions précédentes.
Ouais.
Quant à la partie centrale, oui, il y a quelque chose comme un cri vers Clara, un appel, il y a beaucoup de fougue, peut-être moins d'Eusebius, mais un grand cri d'amour qui m'a beaucoup plu aussi.
La F.
Alors c'est une version qui choisit de mettre évidemment plus en valeur la partie inférieure de la main droite. Donc là, les voix secondaires ont été vraiment extrêmement mises en valeur. Mais là, pour le coup, la rencontre des deux voix dont je parlais tout à l'heure me semblait beaucoup mieux réalisée. Alors, c'est toujours le problème de cette version, c'est-à-dire qu'on garde un caractère très clair, très ouvert.
Ce que vous aviez remarqué déjà dans le premier extrait tout à l'heure.
Qui manque un peu de zone d'ombre, ouais. de suggestion, ouais. de non-dit, d'intimité aussi. Ouais. Donc voilà, c'est le problème et la limite de cette version.
Bien.
Ensuite, sur la dernière pièce, je trouvais que la partie centrale de la 15e pièce était trop dominée par la main gauche. Et donc ça se faisait un petit peu au détriment de la mélodie de la main droite qui perdait un petit peu en expressivité ouais. à certains endroits.
Alors, Jonas Vito, là, sur les quatre versions qu'on a entendues dans ces deux extraits, laquelle voulez-vous supprimer pour le dernier tour ?
Ce serait soit la E, soit la F, plutôt la E.
Plutôt la E, d'accord. Mélissa Kong ?
Pour moi, ce sera la E.
La E.
Et moi, j'hésite. Il y en a deux qui m'ont déçu. Là, c'est la B et la E.
La B et la E. Bon, alors, j'ai l'impression quand même que c'est la E qui se profile un petit peu. On va supprimer la E, vous êtes d'accord ?
Très bien.
Bon, la E enregistrée en 2000 par Maurizio Pollini. Pour
l'un
Deutsche Grammophon.
L'un de mes pianistes préférés.
Ben oui. Vous aussi, Jonas ? Non, c'est pas un de vos pianistes préférés.
Tu n'avais pas cité, hein, Mélissa,
que j'ai
C'est un pianiste que j'aime beaucoup, mais peut-être pas un de mes préférés.
Bon. Donc, on se retrouve tout de suite pour le dernier extrait sans la version E.
France Musique, la tribune des critiques de disques. Jérémy Rousseau.
Dans la tribune des critiques de disques aujourd'hui, après avoir pris la décision finalement de supprimer la version E, qui est celle de Maurizio Pollini, nous allons conclure en enchaînant les versions B, C et F avec la 17e pièce, Wie aus der Ferne, comme venue du lointain, en si majeur. C'est une pièce assez longue, parmi ces 18 pièces, dont certaines sont très courtes. Wie aus der Ferne, c'est aussi le titre de... C'est le nom du duo dans le vaisseau fantôme entre Zenta et le Hollandais, voilà. Bon, pas si on peut y voir une réminiscence wagnérienne postérieure une préscience, un rêve de Wagner d'avoir repensé à cette pièce de Schumann, je ne sais pas. En tout cas, voici enchaînées les versions B, C et F de ces David Bündler Tänze. Afin de les départager, voici la B.